de ce Congo belge. On va au nord-est, au nord Kivu, 6 millions d'habitants, où la guerre est suspendue un petit peu, mais ça va reprendre très probablement. Ça fait des années que ça dure, autour d'un enjeu très très important qu'on appelle les minerais du sang, et parmi lesquels il y en a un très inconnu, et pourtant on l'a tous dans la poche, qui est le coltan, qui est ce minerai qui est indispensable au fonctionnement de nos téléphones, de nos ordinateurs, etc., et qui provient en grande partie de cette région de la RDC, et qui est un enjeu majeur, et qui a déclenché depuis des années des guerres particulièrement sanguinaires, avec une influence des pays voisins, l'Ouganda et le Rwanda. On va essayer de comprendre. À chaque fois, on vous demande de tout expliquer, Sabine.
C'est très compliqué, le Congo, parce que quand on a expliqué déjà qu'est-ce que c'est le Congo et la problématique avec les voisins, on a déjà utilisé la moitié de l'espace.
Oui.
Et après, on peut parler du problème.
Oui.
Donc, c'est compliqué. Donc, on est parti sous escorte des Nations Unies pour visiter des mines de coltan. Et c'était extrêmement tendu sur place, parce qu'il y avait des miliciens qui avaient été priés de s'en aller pour qu'on ne les voit pas, parce que ça faisait un peu désordre. Donc, on est sur une mine où il y a 3000 mineurs. Il y a 5 policiers qui sont morts de peur que quelque chose n'arrive pendant la visite de ces officiels, parce que la veille, un de les leurs avait été tué par un milicien qui défend la ville des autres groupes armés et même de l'armée congolaise. Quand on voit ça, on comprend que l'État congolais est complètement impuissant par rapport à la situation qui prévaut sur son territoire. L'autre chose qu'on comprend, c'est que les élites sont tellement corrompues, il faudrait plus qu'une révolution dans ce grand pays pour changer véritablement les choses.
Il faut rappeler quand même que c'est un des pays peut-être les plus riches du monde. On a parlé de scandales géologiques à propos de la RDC, à cause de ce dont on parle. On a parlé du coltan, mais il y a beaucoup d'autres minerais, de l'or, etc. C'est ça qui a fait en partie la fortune de la Belgique, il ne faut jamais l'oublier.
Oui, et il y a aussi du pétrole à côté de Goma.
C'est ça.
Ce qu'on observe sur place, c'est que les élites politiques congolaises ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux de leur propre potentiel. Et elles sont tellement corrompues et elles pensent tellement à rouler dans des voitures où les sièges sont en cuir crème sertis de couronnes en strass qu'elles oublient d'approvisionner la population en eau et électricité, alors que des mines de coltan font 3,5 millions de dollars par mois dans des zones où il n'y a rien. Il n'y a pas de service public, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien.
Alors, il faut parler des pays voisins, parce qu'il y a l'Ouganda et le Rwanda qui ont eu un rôle très important dans cette région. Et il faudrait remonter au génocide du Rwanda, il faudrait remonter ensuite aux offensives rwandaises à l'intérieur du Kivu et à ces fameux massacres dont il est question dans le papier de Michel Galli. Est-ce qu'on sent cette présence du Rwanda, de l'Ouganda dans l'opinion?
Franchement, le Rwanda est dans toutes les têtes. Il est invisible sur le plan physique. On voit les collines du Rwanda à 4 kilomètres, mais il n'y a pas une présence physique visible. Mais le Rwanda est dans toutes les conversations, dans toutes les têtes. C'est presque une obsession à Goma. On parle souvent, les jeunes parlent beaucoup de Kagame. Il y a énormément de débats sur Kagame, parce qu'il est un peu vu comme un modèle de réussite économique par d'autres pays en Afrique. Mais pour les Congolais de l'Est, Kagame, c'est un cauchemar. On en parle de manière très négative, parce qu'il n'arrête pas d'intervenir en sous-main. Enfin, il est accusé, en tout cas, d'avoir téléguidé, armé et financé les rébellions successives du CNDP de Laurent Nkunda et du M23 de Bosco Ntaganda qui se retrouve devant la CPI. Et c'est M23 qui a finalement été défait militairement par l'armée du Congo, qui a décidé d'en découdre une fois pour toutes, dans un contexte où le Rwanda est un peu en position de faiblesse puisqu'il a perdu des aides budgétaires importantes à la suite de sanctions qui ont suivi la publication d'un rapport du groupe d'experts des Nations Unies qui accuse vraiment ouvertement le Rwanda et l'Ouganda d'armer et de financer la rébellion du M23.
Et cette rébellion fonctionne autour, toujours, des minerais du sang.
Exactement. Moi, j'ai rencontré des paysans.
La prospérité relative du Rwanda, c'est les minerais du sang.
C'est un grand débat. Et on en a aussi profité pour voir le ministre des Mines au Rwanda, qui a présenté un argumentaire de défense assez intéressant. Il dit qu'il existe des mines au Rwanda. Le seul problème, c'est que les ONG et les Nations Unies disent que le Rwanda n'exporte pas ce qu'il produit, il exporte beaucoup plus que ce qu'il produit.
Ben oui.
Et alors, ce qui est intéressant quand on va sur place aussi, c'est qu'on se rend compte que aucun des arguments ne tient vraiment la route, parce que personne ne veut donner aucun chiffre.